Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour méditer à nouveau avec vous la parole de Dieu sur le thème de l'adoption et nous verrons plus précisément les résultats de l'adoption dans notre vie spirituelle. Je voudrais relire un texte qui a été lu plusieurs fois dans mes méditations précédentes, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4 et au verset 4. Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu nous dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'aimerais souligner ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit au début du verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. L'apôtre Paul fait allusion ici au temps choisi par Dieu pour notre rachat et pour notre adoption. C'est le temps durant lequel Dieu a estimé que le monde était prêt pour la naissance du Sauveur. En effet, les historiens disent que le monde romain était dans une grande espérance et attendait un libérateur au moment de la naissance de Jésus. Les vieilles religions agonisaient, les vieilles philosophies étaient vaines et impuissante à changer la vie des hommes, de nouvelles religions étranges et occultes envahissaient l'Empire, la faillite religieuse et la soif spirituelle étaient générales, et du point de vue historique, l'Empire romain lui-même contribua, sans le savoir, à préparer le monde à la naissance du Sauveur. Par ailleurs, des routes reliaient les villes entre elles et toutes les villes étaient aussi reliées à Rome. Grâce aux conquêtes grecques et aux conquêtes romaines, le latin et le grec se répandirent dans l'Empire. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne fut donc pas un hasard ou un accident. Ce fut le rendez-vous de Dieu avec l'humanité. Dieu avait préparé le monde pour l'arrivée de son Fils. Et c'est ce qui fait dire au Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Je voudrais faire un rappel que je juge vraiment nécessaire. Au niveau de l'expérience chrétienne, nous n'entrons pas dans la famille de Dieu par adoption comme un orphelin entre dans une famille qui l'accueille. La seule façon d'entrer dans la famille de Dieu, nous le savons par expérience chacun pour notre part, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus a eu l'occasion de proclamer cela à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 3. Jésus dit « Je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus parle donc d'une nouvelle naissance. Je rappelle encore que l'adoption a un rapport avec notre position, je dis bien notre position au sein de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas des petits-enfants en bas âge, mais des fils adultes avec tous les privilèges de la filiation. L'adoption au sens biblique, je dis bien au sens biblique, ne peut pas nous rendre plus proches de notre Père Céleste, et l'adoption ne peut pas nous amener à être plus aimés de notre Père Céleste. Nous sommes dans la position d'enfants de Dieu par la régénération, et nous sommes maintenant fils d'adoption, c'est-à-dire que l'adoption nous donne un statut nouveau, une position nouvelle, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui et dans les méditations prochaines, en découvrant ces merveilles de grâce qui sont à notre disposition et que la parole de Dieu proclame par le Saint-Esprit jusqu'à notre cœur. Il est regrettable que de nombreux traducteurs du Nouveau Testament n'aient pas établi une distinction entre enfant de Dieu et fils de Dieu, parce qu'il y a une différence importante. Je le répète, enfant de Dieu, alors nous le sommes par la régénération, par la nouvelle naissance, c'est la condition du pécheur racheté. Et nous comprenons bien alors que l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, qui a été engendré par la parole de vérité, l'enfant de Dieu doit grandir dans cette condition pour saisir par la foi sa position de fils d'adoption. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre au chapitre 2, versets 2 et 3. Il écrit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Il y a donc un développement, une croissance sous-entendue ici, c'est que le nouveau-né est appelé à se développer dans la grâce pour arriver à un stade de maturité, à un stade d'adulte que l'Écriture désigne sous le terme de fils d'adoption. Cette croissance n'était pas évidente dans l'église de Corinthe et l'apôtre Paul l'a déplorée fortement. Il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 3, verset 1er, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Écoutez bien, « comme à des enfants en Christ ». Alors, il ne dit pas que les Corinthiens n'étaient pas convertis, mais il dit qu'ils sont restés des enfants en Christ. Ils étaient enfants de Dieu, mais ils n'avaient pas permis à la grâce de Dieu d'agir dans le cœur de chacun d'eux pour les amener de la position ou de la condition d'enfant de Dieu à cette glorieuse position de fils d'adoption. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes charnels, comme que je vous ai parlé, comme à des hommes spirituels, pardon, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et il ajoute, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et ce même reproche était adressé au destinataire de l'Épître aux Hébreux. Je lis en effet au chapitre 5, verset 12 de cet Épître aux Hébreux. « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, donc arriver vraiment à un stade d'adulte dans la foi, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'enfant de Dieu est appelé à se développer pour devenir un fils de Dieu, un fils d'adoption, parce qu'il faut réaliser qu'en Jésus-Christ, nous sommes placés immédiatement du même coup dans cette position bénie. Nous sommes à la fois enfants de Dieu et fils d'adoption. Et cette position bénie nous amène à user de tous les droits et de tous les merveilleux privilèges de fils adulte, pouvant jouir des richesses du Père. Le chrétien n'a pas à attendre pour profiter des richesses spirituelles qu'il possède en Christ, parce qu'il peut avoir cette grâce d'en profiter dès le départ de sa marche avec le Seigneur. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Galates, et c'est le texte que je vous ai lu en introduction, au chapitre 4, verset 7, Paul dit ainsi, « Tu n'es plus esclave, ça c'est ta vie d'autrefois dans le péché loin de Dieu, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Le problème est donc que bien des chrétiens sont malheureusement restés des enfants de Dieu et ne sont pas parvenus à la position bénie de fils d'adoption. Ils sont enfants de Dieu, cela ne fait aucun doute, mais ils n'ont pas grandi pour saisir dès le départ leur position glorieuse de fils d'adoption avec tout ce que le Seigneur alors réserve pour eux comme grâce et comme richesse spirituelle. Le premier résultat de l'adoption dans nos vies, et je vais m'arrêter uniquement là-dessus aujourd'hui, c'est de recevoir la nature de notre Père Céleste. Notez bien, frères et sœurs en la foi, que toute la Trinité est impliquée dans notre expérience spirituelle. En effet, Dieu le Père a envoyé sur notre terre Dieu le Fils, afin qu'il meure pour nous et qu'il nous rachète. Et Dieu le Fils, remonté au ciel et glorifié, a envoyé Dieu le Saint-Esprit afin qu'il vive en nous. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Et aussi, quelle responsabilité pour nous! Si nous réfléchissons à la révélation que l'Écriture nous donne de Jésus, dans les choses du monde, dans les liens humains, allons-nous dire, le Fils a la même nature que le Père, c'est le Père qui l'a engendré. Mais dans une maison, il n'en est pas ainsi du serviteur. Je vais reprendre un terme de l'Écriture de l'époque, il n'en est pas ainsi de l'esclave. L'esclave n'est pas l'enfant du Père. Le Fils, lui, a la nature du Père. Et cela est pleinement vrai dans la régénération. Parce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa seconde lettre au chapitre 1er verset 4, il fait allusion aux grandes et aux précieuses promesses de Dieu, afin que, par elles, écrit-il, vous deveniez participant de la nature divine. Mais réalisez-vous bien toute cette grâce immense qu'il y a dans la régénération. Nous sommes participants de la nature divine. La loi de Moïse, ne pouvait jamais procurer à une personne cette participation à la nature de Dieu. Elle pouvait tout au plus révéler le besoin d'avoir une participation à cette nature divine, mais la loi ne la procurait pas au cœur humain. Ce qui fait que lorsque des croyants sont tentés de retourner à la loi et veulent à nouveau judaïser, glisser dans le légalisme, du même coup, ils rejettent la nature divine qui est en eux. Et ils donnent à la vieille nature, la chair, l'occasion de se manifester et de reprendre ses droits, parce que la loi ne procure pas la participation à la nature divine. La grâce, elle, le fait. Et j'aimerais vous conduire vers une parabole du Seigneur Jésus qui est riche d'enseignements à ce sujet. C'est la parabole qui a été appelée celle du fils prodigue. J'aurai l'occasion de revenir sur cette parabole dans une méditation future, mais je voudrais souligner quelques points aujourd'hui. Luc chapitre 15, verset 11, Jésus dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune fils dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je vais poursuivre, mais je précise qu'il y a là de la part du fils une attitude volontaire de rupture d'avec le père. Il quitte la maison du père, il quitte la communion du père et il s'en va vivre sa vie dans un pays éloigné. Jésus poursuit. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Alors vous imaginez la dégringolade au niveau de ce fils, qui était, on le comprend, dans une famille aisée, certainement jouissant de toutes sortes de biens, de toutes sortes de privilèges, et qui se retrouve là dans les champs en train de garder des pourceaux. Et non seulement cela, mais il éprouve la faim. Jésus dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors fini les amis, fini les plaisirs, fini l'ivresse dans les choses du monde, il se retrouve seul et sans ressources. Et écoutez bien maintenant ce que dit Jésus. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Et à ce moment-là, le fils, appelé le fils prodigue, va prendre une résolution. Une résolution de retour vers le Père. Et Jésus poursuit au verset 18. Ce garçon dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il prend conscience que sa position de rejet du Père pendant un temps indéterminé, alors qu'il a quitter la communion de son père pour aller vivre sa vie de débauche dans un pays éloigné, toute cette position-là a rompu, en quelque sorte, sa glorieuse position de fils dans la maison du père. Et il a le désir, en revenant, de dire à son père, mais cette position-là, je ne la mérite plus. Traite-moi comme un mercenaire. Je ne suis plus un fils. J'ai tout gâché, j'ai tout rompu avec ma vie de péché. Maintenant, traite-moi comme un mercenaire et non plus comme un fils de la maison. Jésus poursuit la parabole et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, écoutez bien, c'est très intéressant ici, parce que Jésus savait prêcher, croyez-le bien, et chaque mot dans la bouche de Jésus a son importance. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, etc. Vous connaissez la suite de la parabole. Mais il manque quelque chose ici. Dans ce que le fils s'était proposé de dire quand il se trouverait dans la présence du Père, et ce qu'il dit effectivement quand il y est dans cette présence-là, on s'aperçoit qu'il manque un morceau de sa résolution. Parce que le fils avait dit, à la fin de sa résolution, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et vous remarquez quelque chose de glorieux dans le récit que Jésus nous fait de cette parabole, c'est que le Père ne laisse pas le temps à son fils de prononcer cette phrase-là. Oui, il va lui laisser le temps de dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », mais il ne lui permettra pas, il n'aura pas le temps de dire « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Et pourquoi ? Parce que la repentance et le retour vers le Père, un retour total, profond, dans la confession totale du péché et dans l'abandon du péché, parce que le fils n'est pas revenu avec une fille d'un des bouges de la ville où il avait vécu dans la débauche, il n'est pas revenu avec un petit porcelet sous le bras, il est revenu tel qu'il était, misérable. La repentance et le retour complet vers le Père ne nous mettent pas dans la position d'un serviteur, d'un mercenaire, d'un esclave, mais d'un fils. Et le message de la parole de Dieu est glorieux. Quand quelqu'un a délaissé, malheureusement, par une chute, sa position bénie de fils ou de fille d'adoption, et qu'il ou elle revient vers le Père de tout son cœur, il retrouve cette position d'adoption, cette position bénie. Et je vais terminer pour aujourd'hui en vous disant ceci. Un père espère se retrouver dans son fils. Il espère retrouver, bien sûr dans la mesure où les choses sont bonnes, ça va de soi, son esprit, sa mentalité, son caractère, ses sentiments, ses pensées, ses ambitions, ses objectifs, sa détermination de voir ses plans réalisés. Eh bien, que pensez-vous que Dieu espère retrouver en nous, ses fils d'adoption? Mais Dieu espère retrouver en nous sa nature, son esprit. Mais oui, Dieu espère retrouver en nous sa mentalité, son caractère divin, ses sentiments. Ce n'est pas pour rien que Paul dit aux Philippiens « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dieu espère retrouver en nous ses pensées. L'apôtre Paul écrivait dans l'une de ses lettres « Nous, nous avons la pensée de Christ ». Dieu, le Père, espère retrouver en nous ses ambitions, ses objectifs, notre détermination à voir ses plans réalisés. Vous savez ce que Jésus a dit un jour à l'un de ses disciples ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Si les gens de son temps voulaient connaître tout de la nature du Père céleste, il suffisait qu'ils regardent, qu'ils écoutent, qu'ils voient Jésus, qu'ils contemplent Jésus, parce qu'il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nous sommes, en principe, des fils d'adoption. Est-ce que, toute proportion gardée, nous pouvons dire à nos semblables qui nous entourent, mais celui qui m'a vu a vu le Père, bien sûr, pas dans le sens complet, total, parfait où Jésus a pu le dire, mais quand même, notre entourage, les gens de notre famille, convertis et inconvertis, notre voisinage, nos collègues de travail, ceux que nous aurons l'occasion de rencontrer, est-ce que dans le contact que ces gens-là auront avec nous, ils pourront dire « mais j'ai vu quelque chose de Dieu en lui ». C'est notre responsabilité de fils d'adoption, d'arriver à cette position bénie où nous saisissons tout notre héritage, où nous permettons au Père de nous communiquer tout notre héritage comme fils adulte pour qu'il reproduise en nous son image et qu'il déverse en nous toutes ses richesses afin que nous soyons, oui, véritablement les ambassadeurs de la cité céleste, les représentants de notre Père céleste et que nous répandions en tout lieu, comme le dit l'apôtre Paul, l'odeur de sa connaissance. Que le Seigneur nous aide dans ce programme merveilleux qui n'est pas hors de notre portée, qui n'est pas inaccessible, mais nous pouvons y entrer par la foi. Amen.